Chapitre 3. Le comte de Foix comprit bien, au bruit qui se faisait dans son château, que celui qui lui rendait visite était quelque noble seigneur des environs. En effet, la porte s'ouvrit, et le sire Raymond de Corras entra, précédé d'un page et suivi de deux écuyers. C'était un des vassaux les plus fidèles et un des plus vieux amis du comte, et son château n'était distant de celui d'Orthès que de 7 ou 8 lieues. Mais, outre ces rapports de féodalité et de voisinage, un lien puissant les unissait. Le comte Gaston Phébus s'occupait d'astrologie, et l'on disait que le sire Raymond avait découvert dans cette science des secrets qui étaient restés inconnus à tous les autres hommes. Le comte de Foix reçut le baron de Corras comme un vieil ami qui avait l'habitude de le visiter, et dont les visites étaient toujours bienvenues. Mais ils ne purent causer d'affaires ni de science, car derrière les écuyers entrèrent les nobles qui avaient l'habitude de manger à la table du comte. Il fut donc question de choses générales et entre autres de la grande guerre qui s'était élevée entre les deux gens, Jean Ier de Portugal et Jean Ier de Castille. Je vais vous dire à quelle occasion. Et Pierre de Portugal avait eu 2 fils. Un légitime qui monta sur le trône sous le nom de Fernand Ier et un bâtard qu'il appela Jean et que son frère fit grand maître de l'ordre de Darius. Or, Fernand Ier, n'ayant pas d'enfant mâle, avait marié sa fille Béatrice à Jean Ier, roi de Castille, croyant de cette manière assurer le trône de Portugal au fils qui naîtrait de cette union ou à défaut de fils à son gendre. Mais avant de prendre ses dispositions héréditaires, le roi Fernand s'était occupé des affaires de son royaume de la manière que nous allons dire. Il avait pour ministre un noble portugais nommé Dom João Andeiro, lequel, ayant été en Angleterre pendant l'année 1375, et ayant obtenu la faveur d'un comte de Cambridge, fut chargé à son retour par le roi Fernand d'une mission secrète et importante. C'était d'engager la cour de Londres à former une ligue avec le Portugal contre tout pays ennemi, mort ou chrétien, qui pourrait attaquer ce pays. Andeiro réussit à souhait et revint à Lisbonne en 1380. Mais le roi Fernand, qui était fort dissimulé et qui ne voulait pas qu'on pénétrât les secrets de sa politique, feignit qu'Andeiro était tombé en disgrâce et le fit enfermer dans sa tour d'Estremaux. Là, il allait souvent le visiter avec la reine et le Nortelès, et parfois aussi il y envoyait la reine seule. Il résulta de ces visites trop multipliées et trop confiantes qu'un amour adultère grandit au cœur d'Andeiro et que le favori du roi devint l'amant de la reine. La négociation avec l'Angleterre étant sur le point d'être terminée, Fernand fit sortir de prison Andeiro et l'exila à Londres. Il s'y rendit muni des pleins pouvoirs du roi et termina le traité. Alors il revint pour la seconde fois à Lisbonne et Don Fernand, feignant d'oublier le passé, parut rendre Andeiro la faveur qu'il n'avait jamais perdue et le chargea de négocier le mariage de sa fille Béatrice avec le roi de Castille. Cette négociation, comme la première, réussit à la satisfaction de Fernand, de sorte que, poussé de son côté par la reine, le favori ne vit plus de terme à sa faveur. Créé comte et grand du Portugal, il commença de gérer, comme le roi lui-même, les affaires de l'État. Sur ces entrefaites, le roi mourut. Le roi de Castille, Jean Ier, voulut alors faire valoir sur le Portugal les droits que lui donnait son mariage avec la fille de Don Fernand. Mais la haine des Portugais pour les Castillans était si grande qu'au premier signe d'opposition que donna Jean, le frère naturel du roi mort, tous les grands du royaume se réunirent à lui. Fort de cet appui, il rêva dès lors de s'emparer du trône, et comme la reine s'était discréditée par ses amours publics avec le ministre, il entra un jour chez elle avec 25 hommes armés, et y rencontrant Andeiro, il le poignarda, quoique la reine le défendît tant qu'elle put de ses paroles et de sa personne. Le favori mort, Jean profita du premier mouvement d'exaspération pour exiler la reine. Éléonore Télès se rendit en Castille, à la cour du roi Jean Ier, et, comme leurs intérêts étaient les mêmes, elle trouva près de ce prince appui et secours. Le futur usurpateur, déjà nommé régent du royaume, profita du moment où la Castille armait contre le Portugal pour se faire nommer roi par les États rassemblés à Coimbre, lesquels, sans conteste et par acclamation, lui déférèrent la couronne au préjudice de Béatrice et des enfants de Castille. Or les choses en étaient à ce point, et les deux armées se trouvaient en présence, les Français soutenant la Castille et les Anglais le Portugal, lorsque le sire Raymond de Coras vint faire la visite que nous avons dite au comte de Foix. Comme Yvain était dans l'armée castillane et comme il était le seul fils qui resta au comte depuis la mort du jeune Gaston, il ne faut pas demander si l'on devisa longuement des dites affaires et de la bataille qui devait avoir lieu incessamment en attendant le souper. Lorsque l'heure attendue sonna, la porte s'ouvrit. 12 valets, portant torches, marchèrent devant les convives et, arrivés dans la salle, se placèrent derrière eux pour les éclairer. Cependant, les convives n'en firent pas moins grande chère, car le comte Gaston se faisait violence pour ne pas attrister ses hôtes de sa tristesse. Le repas se passa donc comme d'habitude, accompagné de force ménestrandrie, car le comte aimait la musique et faisait volontiers chanter à ses clercs des rondeaux et des virelets. On plaçait devant lui une foule d'entremets nouveaux et étrangers que son maître queue préparait pour lui et qu'il envoyait à sa table aussitôt qu'il les avait goûtés aux tables des chevaliers et écuyers. Enfin, vers 1 heure du matin, il se leva et, faisant reconduire chacun de ses hôtes à l'appartement qui lui était destiné, il monta à sa chambre, précédé de 4 valets portant torches et accompagné de son voisin et ami Raymond de Coras. À peine entré dans la chambre où il trouva la lampe allumée et un pot d'hypocrase cuit bien à point, le comte ferma la porte afin de n'être pas dérangé et, faisant asseoir le sire de Coras d'un côté de la table tandis que lui-même s'asseyait de l'autre, « Eh bien, lui dit-il, cher sire et ami, maintenant que nous sommes seuls et que nous n'avons plus d'oreilles indiscrètes occupées à nous écouter, quelle nouvelle d'Espagne ?» Petite, monseigneur, petite. Les Castillans et les Portugais ont donné hier bataille près d'Aljubarrota, et bien que la mêlée a commencé à 2 heures de l'après-midi et n'a fini qu'à 9 heures du soir, les Castillans ont perdu la journée. Don Juan et Don Fernand de Castille, cousin germain du roi, ont été tués, ainsi que Jean de Rieck, ambassadeur de France. » Et Yvain, dit après un moment d'hésitation, le comte Gaston Phébus, se trouvait-il à cette bataille ?
Il s'y trouvait, monseigneur, répondit le sire de Coras, et il s'y est conduit en brave chevalier, qui, quoiqu'il ait son casque tourné à gauche et une barre sur ses armes, a du noble sang dans le cœur.
Et qu'a-t-il plu à Dieu qu'il advint de lui ? Demanda avec anxiété le comte.
« Il a été blessé légèrement, monseigneur, et il est retiré à 7 heures avec les débris de l'armée française et castillane en la ville de Santarém. »
« N'avez-vous pas quelques autres détails sur la bataille ?» continua le comte de Foix, soulagé d'une grande crainte, et qui remercia Dieu mentalement de lui avoir conservé le dernier rejeton de son sang. « Si fait en ai-je et de certain, reprit le sire de Coras, et vous les direz si tel est votre bon plaisir, monseigneur. »
Mais dites, répondit le comte.
Ce fut avant-hier, vendredi, continua le sire de Coras, sur les 8 heures du matin, que le roi de Castille, qui se tenait à Santarém, apprit que les Anglais et les Portugais, conduits par le roi Don Juan, étaient sortis de Lisbonne et venaient au-devant de lui. Aussitôt, la nouvelle s'en répandit dans l'armée, et Castillans, Gascons et Français en eurent grande joie, car, outre que la plupart étaient de braves chevaliers, ils savaient qu'une fois en présence, ils se trouveraient 3 contre 1, et ils se fiaient à l'avantage du nombre. Or, le roi de Castille fut aussitôt trompetté par toute la ville de Santarém, où était logée sa puissance, que tout homme de pied ou de cheval eût à être prêt le samedi matin, attendu que le roi partirait et irait combattre ses ennemis.
quand vint l'heure désignée, les cors et les trompettes sonnèrent, et le roi de Castille, après avoir communié et reçu la bénédiction de l'archevêque Guérin de Prague, mit une croix sur sa poitrine. Tous les chevaliers imitèrent son exemple comme s'ils partaient pour la Terre Sainte. Puis on monta à cheval, et l'on se mit au champ en belle et bonne ordonnance, messire Regnault de Limousin marchant le premier comme maréchal de l'armée. Au moment du départ, on envoya devant trois coureurs pour aviser la force et le cantonnement des ennemis. Ces trois coureurs étaient, de la part des Castillans, Don Pedro Fernand de Medina, de la part des Français, messire Guillaume de Mondigny, et de la part des Gascons, le chevalier Bertrand de Barège. De son côté, le roi de Portugal avait envoyé trois chevaucheurs dans le même but et à la même intention, deux Anglais et un Portugais. Les Anglais s'appelaient James Halberbury et Philippe de Brotherstone. Le Portugais avait nom Fernand de los Rios. Tous étaient bien montés, braves écuyers et habiles hommes d'armes. Or, ils chevauchèrent si avant que, du haut d'un tertre où ils étaient parvenus, ils aperçurent à travers les arbres toute l'armée des Espagnols. Aussitôt, ils retournèrent vers le roi de Portugal, qu'ils trouvèrent au champ et sur pied avec toute son armée. Ils allèrent droit à lui, disant « Ah, sire roi, nous avons été si avant que nous avons vu toute l'armée de vos ennemis. Sachez donc qu'ils viennent à nous en grande et belle ordonnance, et qu'autant que nous en avons pu juger, ils doivent être au moins 30 000 hommes. » Chevauchent-ils tous ensemble ? Demanda le roi. Non, sire, répondirent les envoyés, ils sont divisés en deux troupes. Vous entendez, mes seigneurs, répondit le roi, il est probable que ce sera pour aujourd'hui la bataille. Ah donc, tenons conseil sur ce qu'il nous reste à faire en cette circonstance. Un conseil se forma aussitôt, composé du roi, de messire Astel, de messire Northbury, de messire Hartlebury et de plusieurs autres choisis parmi les plus expérimentés et les plus braves. Le cas était difficile. Les forces de l'ennemi étaient quadruples des leurs, et cependant les Portugais ne voulaient pas reculer. Alors les Anglais, se souvenant de Crécy, dirent « Puisqu'ils sont les plus nombreux, cherchons quelque terrain où nous aurons l'avantage des haies et des buissons. Puis, quand nous l'aurons trouvé, fortifions-nous de manière qu'il soit moins facile de nous entamer que si nous restions en plaine. » Le roi répondit « Vous parlez sagement, qu'il soit fait ainsi que vous dites. » Les Portugais étaient arrêtés près du village d'Ajubarota, où ils avaient envoyé toutes leurs provisions, leurs harnois et leurs équipages, car ils avaient l'intention, qu'il y eût bataille ou non, d'y revenir coucher le même soir. À un quart de lieue du village est une abbaye de moines où les gens d'Ajubarota et des villages voisins vont à la messe. Or l'église est bâtie sur le côté du chemin vers le sommet d'une petite montagne au flanc de laquelle le poussent de grands arbres et une multitude de haies et de buissons. C'était un retranchement comme il en fallait un à l'armée portugaise. Aussitôt fut-il choisi, aussitôt que reconnu. On abattit les arbres, on les coucha en travers afin que les chevaux ne pussent pas charger. Un seul chemin resta libre, et aux deux ailes du chemin, derrière les arbres, les haies et les buissons, on plaça les archers et les arbalétriers. Les gendarmes formèrent le corps d'armée. Le roi de Portugal entra dans le couvent comme dans une forteresse, et on attendit l'ennemi. « Ah, sur mon âme, interrompit le comte de Foix, vous parlez de l'ordonnance comme si vous l'aviez vue. » « Je n'ai pourtant jamais visité le pays, » répondit le sire de Corras. C'est une merveille alors, » répondit Gaston tout pensif. « Continuez. » Quand le roi vit les Portugais aussi fortifiés, en si grande et si bonne position qu'ils pouvaient tenir longuement et faire bonne journée, quelle que fût la force des ennemis, il s'avança vers eux. Beau seigneur, leur dit-il, nous voilà arrivés en un point où il ne faut pas songer à fuir, car la fuite serait mauvaise. Lisbonne est trop éloignée de nous, et trois hommes qui poursuivraient en abattraient 12 qui fuiraient. Au lieu de penser à la retraite qui est impossible, Imaginez donc que si la journée est pour nous, ce qu'elle sera avec l'aide de Dieu, nous serons honorés comme des prud'hommes, et l'on parlera de nous partout où peuvent parvenir les nouvelles d'une victoire. Pensez que vous m'avez fait roi il y a quelques jours à peine, et que vous devez en être plus hardi et plus courageux à me défendre. Quant à moi, soyez certain que tant que cette hache me durera dans la main, je frapperai avec elle, et que si elle se brise, je ne fuirai pas pour cela, mais j'en prendrai une autre, et montrerai que je veux défendre et garder la couronne de Portugal à laquelle j'ai droit. Je le soutiens à mes amis et à mes ennemis par la succession de Monseigneur, mon frère. » À ces paroles, un Portugais répondit au nom de tous ceux qui comprenaient la langue dans laquelle elles avaient été prononcées. « Sire roi, grâce et merci au nom de tous, vous venez de nous admonester sagement et doucement. Vous avez eu raison de compter sur nous. Quelque chose qu'il arrive, nous ne quitterons cette place que nous avons choisie, que mort ou vainqueur. Or, montez sur un endroit élevé, afin que chacun puisse vous voir et vous entendre, car tous ne vous ont pas vu et entendu. Puis, s'il y en a un de nous qui n'ose attendre la bataille, donnez-lui son congé de partir et qu'il parte, car un mauvais cœur en décourage à lui seul 2 douzaines de bons. » « Bien, répondit le roi, je vais faire ainsi que vous dites. » Et sur l'heure, il choisit 2 chevaliers de Portugal pour aller, de rang en rang, savoir s'il y avait quelqu'un qui voulût quitter la bataille. Mais les chevaliers revinrent au roi sans en avoir trouvé un seul dont le cœur fût faible dans les 8 000 qu'ils étaient. « Ah, tout va au mieux, dit le roi. » Cependant, les coureurs castillans, gascons et français s'étaient avancés de leur côté sans avoir été découverts et avaient vu toutes les dispositions de leurs ennemis. Ils s'en étaient alors retournés vers le roi, disant « Sire, nous avons vu les Portugais. Selon ce que nous pouvons juger, ils sont de 8 à 10 000. » Probablement, de leur côté, ils ont eu nouvelle de notre force, car ils se sont retirés vers l'église d'Ajurabota, qui est située sur une montagne et s'y sont fortifiés. Maintenant, celui qui voudra les avoir les trouvera là. Alors le roi de Castille assembla son conseil, comme avait fait le roi de Portugal, et spécialement les barons et chevaliers de France, leur demandant ce qu'ils croyaient bon de faire. « Sire roi, répondit en espagnol Messire Regnault de Limousin, qui parlait cette langue comme la sienne, tant il était resté longtemps en Castille, se met d'avis qu'il les faut attaquer sur l'heure, car voyant notre force, il pourrait profiter de la nuit pour se retirer, et demain les gens du pays, qui vous haïssent comme castillans et nous comme français, pourraient accourir de tous points et les renforcer, de manière que ce seraient eux alors qui se trouveraient les plus nombreux. Je vous conseille donc, sire roi, puisque vous savez où ils sont, que vous ordonniez vos batailles et que nous allions les combattre, tandis que nos gens sont pleins d'ardeur et disposés à bien faire. Je veux faire selon que vous me conseillerez, dit le roi, et que si quelques-uns veulent être faits chevaliers, ils sortent des rangs et viennent à moi, je leur donnerai l'ordre en l'honneur de Dieu et de Saint-Georges. Alors sortirent des rangs messire Bertrand de Barège, messire Pierre de Valence, messire Godefroy de Parthenay et messire Yvain de Foix, votre fils, et là ils furent faits chevaliers de la main du roi. Alors s'avancèrent vers le roi le sire de Lignac, qui était gascon, et le sire de Mondigny, qui était français, armés de toutes pièces à l'exception du casque. « Sire roi, lui dirent-ils, nous sommes étrangers et de lointain pays, venus sans autre espoir de récompense que celui d'acquérir honneur et renom par nos apertises et faits d'armes. Vous plairait-il nous accorder la grâce que nous ayons la première bataille ?» « Je vous l'accorde, dit le roi, au nom de Dieu et de Monseigneur Saint-Jacques. » Et les castillans murmuraient, disant, « Regardez, regardez, comme notre roi se confie à tous les Français et à tous les Gascons, ils ont la première bataille, et ne nous estiment pas assez pour nous appeler, ils font leur part à eux, nous ferons la nôtre à part nous. » Et comme les murmures s'étendirent par toute l'armée, 6 des plus nobles castillans s'approchèrent du roi, et, prenant la parole au nom de tous, un d'eux dit « Très noble roi, nous voyons à des signes apparents et certains que nous aurons aujourd'hui rencontre avec nos ennemis. Dieu nous donne la victoire, comme nous le désirons. Mais avant de combattre, nous voulons savoir de vous-même en quelle compagnie il vous plaît le plus d'être, ou avec nous qui sommes vos fœtaux sujets, ou avec les Français et les Gascons qui vous sont étrangers. » Beau seigneur, dit le roi, j'ai accordé, il est vrai, la première bataille aux chevaliers et écuyers de France pour leur faire honneur. Mais à vous, j'accorde ma personne et vous la donne à garder pour vous faire droit. Ainsi ferons-nous, mon seigneur, répondirent-ils, et nous ne vous manquerons qu'à la mort. C'est ainsi que le roi demeura parmi les courtisans et que Messire Regnault de Limousin eut la première bataille. Ces circonstances prises, l'armée se mit en marche, et il était l'heure de vêpres à peu près quand l'avant-garde arriva devant l'église d'Aljubarrota. Elle était composée de 2000 lances, et dès qu'elle aperçut les Portugais, les chevaliers se serrèrent les uns contre les autres, s'ordonnant en gens qui connaissent leur besogne. Puis, mettant leurs chevaux au pas, ils s'approchèrent des retranchements jusqu'à portée des traits. Alors ils mirent leurs lances en arrêt, et s'assurant sur leurs arçons, ils s'élancèrent au galop sur le champ improvisé et si habilement fortifié par les Anglais. Là eut lieu une dure rencontre, car les archers et les arbalétriers d'Angleterre commencèrent à leur lancer des flèches et des traits en grande quantité, si grande que les chevaux des Français et des Gascons en étaient tout hérissés, si bien qu'ils se cabraient de douleur et se renversaient les uns sur les autres. Ceux qui parvenaient jusqu'à l'entrée trouvaient là les gendarmes anglais tenant au poing des lances affilées de fer de Bordeaux, qui est le fer le meilleur et le plus sûr qui se puisse trouver, de sorte qu'ils perçaient d'outre en outre boucliers, cuirasses et corps. Dès les premiers coups tombèrent le sire de Gillac, qui fut fait prisonnier et dont la bannière fut prise. Messire Jean de Rieck, ambassadeur des Français, qui, malgré ses 68 ans, avait voulu être des premiers à la bataille. Et cela ne fut pas leur faute, ni parce qu'ils ne firent point en brave, mais leurs chevaux étaient tellement criblés de flèches qu'ils s'affaiblissaient et, pour ainsi dire, fondaient sous eux. Ce fut là que les Portugais reconnurent les bons conseils de leurs alliés qui avaient gagné presque toute leur victoire par cette tactique. Ils en devinrent plus braves et plus légers. À leur tête combattait, ainsi qu'il l'avait promis, le roi de Portugal. Sa bannière était portée devant lui, et il était monté sur un grand coursier, tout armé de ses armes. À chaque nouvelle charge des Français et des Gascons, ils se précipitaient le premier à leur rencontre en criant « Notre-Dame de Portugal, en avant, bonnes gendarmes, ou je ne m'y connais pas, ou tant qu'ils en sont, ils sont à nous. Laissez-les passer, et plus il y en aura, plus nous en aurons. » En effet, autant il en entrait dans le chemin, autant étaient morts aux prisonniers. Car si le roi réconfortait bravement ces gens, de leur côté, ils soutenaient bravement le roi. Or, ce fut là que les Espagnols firent ce qu'ils avaient dit, laissant les Français et les Gascons porter tout le poids de la bataille, ce dont ils seront un jour fort blâmés. Et cependant, à une lieue à peine était le roi avec 20 000 Castillans, qui, s'ils étaient venus assiéger les Portugais d'une part, auraient bien pu changer la face de la besogne. Mais, tout au contraire, ils se tinrent quoi en disant « Ces Français et ces Gascons sont si vaniteux et si hautains, ils ont voulu avoir l'honneur de la journée, qu'ils gagnent à leur manière, nous ne les en empêcherons pas. » Ils les laissèrent donc combattre ainsi jusqu'à l'heure de 5 heures sans venir à leur aide, et à cette heure ils étaient tous prisonniers, blessés ou morts. Cependant, comme le roi se doutait de ce qui se passait, il voulait avancer, mais ils lui dirent « Monseigneur, c'est inutile, les chevaliers de France et de Gascogne ont battu vos ennemis. N'importe, disait le roi, m'avançons un peu. » Mais il faisait 100 pas et s'arrêtait de nouveau sans qu'il fût possible de les faire aller plus loin. Enfin, le roi de Castille vit venir un messager, criant « Sire roi, avancez au nom de votre couronne, la bataille est mauvaise à Aljubarrota, ceux de l'avant-garde sont tous morts ou pris, les trépassés n'ont d'espoir qu'en Dieu, et les prisonniers qu'en vous, Orsus, sire roi, avancez, avancez !» À ces nouvelles, le roi de Castille vit bien qu'on l'avait trompé. Et mettant son cheval au galop, sans écouter ce qu'on pouvait lui dire, il s'élança vers Aljubarrota, criant « Chevauchez, bannière, au nom de Dieu et de Saint-Georges, à la rescousse, à la rescousse !» Mais déjà, il était tard, et le soleil était sur le point de se coucher, de sorte que quelques Castillans, qui craignaient qu'on n'arrivât pas assez tôt pour sauver la chevalerie de France, occupée à mourir pour la Castille, conseillait qu'on attendît le matin, s'appuyant sur ce que la nuit était proche. Mais le roi ne voulut rien entendre et continua de chevaucher, répondant à ceux qui lui conseillaient de revenir. « Laisserons-nous nos ennemis, qui sont lassés, se reposer et se rafraîchir? Qui donne tel conseil n'aime pas mon honneur ?» Cependant, les Portugais, qui croyaient en avoir fini pour cette journée, s'aperçurent qu'elle était commencée à peine. Le roi de Castille leur arrivait à son tour avec ses 20 000 hommes, et tout l'honneur de la bataille était remis une seconde fois à la volonté de Dieu. Alors, jetant les yeux autour d'eux, ils virent qu'ils avaient bien 2 000 prisonniers, et ils pensèrent que, si au moment où ils seraient attaqués en face, les prisonniers se rebellaient par derrière, tout serait perdu à l'instant. Cela fit prendre au roi une dure résolution, mais la nécessité est ainsi faite que là où elle se présente, rien ne lui résiste. L'ordre fut donné à chacun de mettre à mort les prisonniers. Alors commença une boucherie et non plus une bataille. Aucun n'échappa, si vaillant, si noble, si gentil ou si riche qu'il fût. Chevalier, baron, écuyer, tout fut tué sans merci ni miséricorde. Ni prière, ni rançon, ni faisait, il y allait de la vie pour ceux qui mettaient à mort. Si quelques Portugais voulaient défendre ceux de leurs captifs avec lesquels ils avaient déjà débattu le prix de la rédemption, les Anglais, qui avaient surtout poussé à cette mesure, les leur arrachaient des mains, disant qu'il valait mieux vivre que d'être oxy, et que nul, au moment du combat, ne pouvait avoir confiance en la parole d'un ennemi. Or, regardez la grande mésaventure, car ils tuèrent bien, ce samedi au soir, de bons prisonniers dont ils auraient eu 400 000 francs au moins l'un dans l'autre. Cette besogne de bourreaux était à peine terminée qu'il leur fallut revenir à celle de soldats. Et il était temps qu'ils eussent fini derrière eux. Le roi de Castille arrivait à grande course avec toute son assemblée, bannières au vent, et monté sur des chevaux armés comme leurs cavaliers. Les Portugais conservèrent le même ordre de bataille, répandant leurs archers et leurs arbalétriers sur les deux côtés du chemin qu'ils avaient laissé libre pour entrer dans le camp, et plaçant à l'extrémité de ce chemin pour recevoir le choc leurs meilleurs prud'hommes et leurs plus braves chevaliers commandés par le roi lui-même. Cependant, le carnage que firent les traits et les flèches fut moins grand parmi l'armée castillane qu'il n'avait été dans l'armée française, vu la couverture des chevaux. Les Espagnols entrèrent donc dans le camp, criant « Castille, Castille !» et animés de grand espoir. Ne sachant pas l'issue de la bataille et le massacre qu'il avait suivi, ils comptaient que les prisonniers profiteraient de leur attaque pour se révolter. Mais en cela, ils se trompaient, les prisonniers étaient morts et n'avaient plus de secours à recevoir ni à donner. Les nouveaux assaillants furent aux haches et aux lances, tandis que des deux côtés, les archers et les arbalétriers faisaient pleuvoir à foison sur eux les flèches et les traits. Ce fut là que le roi de Portugal tint la parole qu'il avait donnée en changeant 2 fois de lance, 2 fois d'épée et 2 fois de hache. Cependant, les Espagnols étaient étonnés de ne rien voir de l'avant-garde et de ne pas en entendre parler davantage que si elle se fût évanouie comme une fumée. 3 fois ils furent repoussés dans leur retranchement, 3 fois ils revinrent à la charge. Enfin, le roi de Portugal sauta à bas de son cheval, se fit donner une masse, et là, le premier, il abattit de sa main Don Gomez de Mendoche et le grand maître de Calatrava et son frère, de sorte que, comme la nuit tombait, les Espagnols furent pour la troisième fois repoussés jusqu'au bas de la montagne d'Aljubarrota. Ce fut alors que le roi de Castille eut des nouvelles de l'avant-garde et apprit qu'elle avait été entièrement détruite, que son maréchal, Regnault de Limousin, était mort, et que, de toute cette belle cavalerie qu'il était venu aider de France, pas un homme n'était debout. En même temps, il voyait fuir ses gens de tous côtés et les Portugais qui se laissaient rouler sur eux comme une avalanche. Alors les plus fidèles l'entourèrent, lui disant « Monseigneur, partez vous-même, il est tard, vos gens fuient de tous côtés, chacun cherche à se sauver, la fortune est aujourd'hui contre nous, une autre fois vous l'aurez meilleure, partez, Monseigneur, partez, car voici les Portugais. » Alors on amena au roi un cheval frais et qui n'avait point encore été monté de la journée. C'était un coursier mauresque, léger et rapide comme le vent. Le roi se mit promptement en selle et, frappant des éperons, il revint à Santarém, laissant sur le champ de bataille 10 000 des meilleurs chevaliers de France et de Castille. Dieu veuille avoir leur âme. Les Portugais et les Anglais restèrent en armes toute la nuit, et le lendemain, au point du jour, le roi envoya de tous côtés des chevaucheurs par la campagne afin de savoir ce qu'étaient devenus les ennemis. Mais tous revinrent sans en pouvoir donner de nouvelles, et toute cette belle armée s'était fondue et évanouie comme une vapeur. « Voilà, monseigneur le comte, continua le sire de Corras, ce que j'avais à vous dire de la bataille d'Aljubarrota, et vous pouvez en tenir les nouvelles comme certaines. » Et demanda le comte de Foix, « Vous dites, cher sire et ami, qu'elle a eu lieu hier ?» Hier, à l'heure des vêpres, monseigneur. Et combien y a-t-il de lieues d'ici à Aljubarrota? Il y a, en lieu de Castille, 250 lieues à peu près, en supposant que, pour les faire en ligne droite, Dieu donnât à l'homme les ailes d'un oiseau. Et vous avez su ce matin tous les détails que vous me racontez? Ce matin, un peu avant le jour, et je me les suis fait répéter deux fois parce que j'ai pensé que vous en seriez curieux. Et vous avez raison, sire de Corras, car c'est une grande et piteuse nouvelle pour la France et la Gascogne, mais dites-moi, vous avez donc des chevaliers qui chevauchent sur le vent ? Oui, j'en ai, répondit le sire de Corras, mais qui vont plus vite encore, monseigneur. Et les avez-vous, dites-moi, obtenus par l'art de nécromancie? Non, monseigneur. Et dites-moi comment cela s'est fait, Raymond, continua le comte, et je vous jure que je le scellerai à tout le monde, et que, par honneur, trésor ou torture, je n'en ouvrirai la bouche à âme qui vive. Je ne sais si je dois le faire, dit le sire Raymond. La chose vous a-t-elle été défendue par l'esprit? Répondit le comte. Non, monseigneur, dit le chevalier. En ce cas, reprit le comte, vous êtes libre, je vous écoute. Or, écoutez donc, répondit le sire de Corras, car sur mon âme, je vais tout vous dire, monseigneur.